J'avais beau savoir que cela risquait d'arriver, à ce moment-là, j'ai eu très peur, j'en ai pleuré. Pour elle, c'est le début d'une ère, celle de la censure de la science. Quelques jours seulement après le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, le ton était donné. Les agences fédérales de santé ont été priées de retirer tout contenu externe promouvant une idéologie de genre. Résultat, au 31 janvier 2025, un large éventail d'informations et de données scientifiques essentielles à la santé publique, la santé des adolescents et aux droits des personnes LGBT+, notamment concernant le VIH, avait été tout bonnement supprimé. Pour Amna, cette suppression est dramatique. Où puis-je trouver des données fiables désormais? Comment puis-je prendre soin de mes patientes correctement? Les informations délivrées par les agences fédérales sont essentielles pour rester à jour sur les médicaments à prescrire et leurs usages. Elles sont aussi indispensables pour alerter rapidement les médecins en cas de risque, de restriction ou de retrait de médicaments. En même temps, il y a une véritable campagne de désinformation lancée par l'Agence américaine des produits alimentaires et médicaments, une institution clé dans la régulation des contraceptifs et des pilules abortives. La FDA est allée jusqu'à diffuser des informations erronées sur l'avortement médicamenteux en alertant sur les prétendus risques liés à ces méthodes. Depuis 2022, pour aider ses patientes coûte que coûte, Amna est tenue à l'impossible. J'ai le sentiment d'avoir constamment les mains liées. On me force à ne pas exercer mon travail correctement. Par exemple, je peux informer mes patientes sur le fonctionnement et les risques liés à l'avortement. En revanche, il lui est interdit de les orienter vers des sites fournissant des pilules abortives ou de leur expliquer le protocole à suivre. Et bien sûr, en supposant qu'elles aient suffisamment confiance pour m'en parler. Depuis plusieurs années, Amna constate d'être complètement coupée du dialogue avec ses patientes. Résultat, lorsque nos patientes apprennent qu'elles sont enceintes, elles n'osent plus demander de l'aide à leur entourage. Elles n'ont plus confiance en nous. Même lorsqu'elles savent que j'ai effectué des avortements avant 2022, elles craignent de m'en parler. Cette érosion de la confiance des patientes dans le personnel médical est grave, car nous n'avons plus de certitude qu'elles aient accès à une information fiable. Or, parce qu'elles sont davantage exposées au risque de complications, c'est particulièrement préoccupant pour les jeunes, les personnes non anglophones ou celles en situation de vulnérabilité. Même dans les États qui autorisent l'avortement, soigner est devenu un véritable parcours du combattant. Une autre gynécologue obstétricienne, Dishon Taylor, est propriétaire du Desert Institute for Planning Familial, situé dans l'État d'Arizona. Son institut est l'une des rares cliniques privées à pratiquer l'avortement dans la région. Mais elle explique, cette médecin, que sur le papier, tout semble fonctionner, l'avortement est légal ici et bénéficie d'une protection de la Constitution. Mais en réalité, nous faisons face à énormément de défis au quotidien. Contrairement aux autres cliniques de santé, celles qui pratiquent au moins 5 avortements par mois doivent bénéficier d'une licence spécifique. Et cette licence doit être renouvelée régulièrement, ce qui induit des coûts financiers supplémentaires pour ma clinique. Par ailleurs, si l'avortement est aujourd'hui protégé par la Constitution, l'Arizona hérite de décennies de lois hostiles qui contraignent considérablement la pratique du corps médical. Le docteur Taylor doit donc aussi assurer le bon alignement de la clinique avec les quelques 50 lois anti-avortement qui existent dans notre État. Les inspecteurs débarquent souvent sans prévenir pour effectuer des visites quand les autres cliniques, elles, sont prévenues bien en amont. Tout cela crée un environnement hostile et stressant car il peut être difficile de maintenir un niveau de préparation élevé en permanence. On est systématiquement sur le qui-vive. Peu à peu, c'est un véritable climat de peur qui s'est installé parmi le personnel de santé. Sous la première présidence de Trump, je me suis sentie en danger pour la première fois de ma vie. Or, depuis son retour au pouvoir, les mouvements et discours anti-droits ont connu un véritable regain. La violence s'est accentuée à coups d'intrusions dans les cliniques et de menaces visant le personnel et d'autres citoyens. Aujourd'hui, en tant que femme noire qui pratique des avortements, j'ai de sérieuses craintes pour ma sécurité et celle de mes collègues. Malgré cela, le personnel de santé résiste comme il pleut. Nous avons un rôle crucial à jouer pour diffuser une information juste. J'ai donc choisi de faire de notre communication une priorité en y consacrant du temps et des ressources. Le docteur mène en parallèle la résistance sur le plan législatif avec une coalition pour la justice reproductive proactive soutenue par des représentants politiques. Aujourd'hui, AMNA s'expose à des risques considérables si elle ne respecte pas les lois en vigueur dans l'État texan. Je risque de perdre ma licence, de payer une amende pouvant aller jusqu'à 200 000 $, voire de faire de la prison à vie. Beaucoup craignent d'être dénoncés. Pour la plupart, le jeu n'en vaut pas la chandelle. Pire, certains médecins n'osent plus traiter les patientes de peur qu'une fausse couche soit interprétée comme un avortement. C'est terrifiant. Des femmes meurent aux urgences parce que le personnel médical craint d'être dénoncé à tort. Pour AMNA, cette situation n'est pas uniquement le fruit de la décision de la Cour suprême. En 2022, c'est un travail de longue haleine mené pour stigmatiser l'avortement, car au Texas, depuis des années, voire des décennies, l'avortement a été retiré. Et dans le même temps, des organisations telles que la National Network of Abortion Fund se mobilisent pour aider les personnes qui en ont besoin à voyager dans un autre État, pour partager de l'information et des conseils et pour maintenir des services de hotline nationale. Par ailleurs, malgré la crainte et le stigma, de plus en plus de femmes ciblées par les politiques de Trump se mobilisent. Cela me donne énormément de force et d'espoir, dit AMNA. La société civile a un rôle important à jouer pour résister face à ces lois. Pour elle, la voix des médecins et prestataires de soins ne saurait être aussi puissante que celle des personnes directement affectées par ces politiques. C'est pourquoi nous avons besoin d'entendre leur histoire. Collectivement, nous devons nous mobiliser pour défendre le droit à l'avortement et lutter contre les injustices actuelles.
Merci Dominique. T'as pas fini?
Non, c'est vrai que c'est complet.
Je te voyais reprendre un texte.
Non.
Et donc, c'est tout à fait parlant sur ce que représente un climat fait par des autorités qui ne respectent pas les droits fondamentaux, parce que c'est quand même le cas de l'administration Trump, qui ne respecte pas les droits fondamentaux, du climat de peur, de suspicion et de répression dans tous les domaines. Et moi, une réflexion en t'écoutant qui m'est venue, c'est que supprimer des informations par rapport aux maladies sexuellement transmissibles et autres, ça revient à faire que des gens vont mourir de ça.
Les femmes qui ne peuvent pas avorter dans un cursus médical, sans faire
de comparaison déplacée, entre guillemets, quand on parlait de la répression en Iran, qui est une répression directe, c'est une répression indirecte, parce que de toute façon, l'absence de soins ou l'absence d'informations va aboutir au fait que des gens vont mourir. Donc, il y a un gouvernement, même s'il a été élu, mais qui tue sa propre population, n'a aucun droit humain.
On peut dire, Didier, juste pour reprendre, c'est que effectivement le texte, l'acte, c'est au niveau états-unien tous les États, mais là c'est aussi d'un État à un autre.
Oui,
donc il y a vraiment une disparité.
C'est la structure des États-Unis.
Voilà, c'est un
État fédéral. Chaque État a une autonomie importante.
L'acte, je ne sais plus le nom là, ce que tu as dit là.
Oui, moi non plus.
Là c'est pour tout le monde, mais effectivement chacun le décline à sa sauce. Et il y a vraiment des États qui deviennent sûrement très, très compliqués à habiter pour les femmes.
Et tu parlais, Dominique, dans l'article, des censures, effectivement, faites sur Internet, enfin sur les sites d'information. On ne peut aussi qu'encourager les sites d'information des ONG comme Amnesty, mais pas que, effectivement, qui, eux, vont continuer à publier ce genre d'informations pour que les gens y aient quand même accès, effectivement. Et donc, pour tous les anglicistes qui nous écoutent, ou tous ceux qui apprennent l'anglais, il y a aussi, de temps en temps, aller jeter un coup d'œil sur le site d'Amnesty États-Unis, amnestyusa.org, effectivement, et vous avez beaucoup d'informations, effectivement, concernant ce genre de censures qui sont générées par l'administration Trump à l'heure actuelle, encore une fois.
Bon, je rajoute un petit peu côté États-Unis.
Tu as deux minutes. Alors, pour
Didier, deux minutes à la mode Didier. Donc moi, je vais vous parler malheureusement d'Alex Pretty, qui est ce manifestant au Minnesota et qui a été tué ce week-end. Donc après René Good, un autre citoyen américain vient d'être abattu par les agents des services de l'immigration et des douanes, ICE, un infirmier qui exerçait son droit le plus strict de manifester. Nous n'oublions pas les nombreuses autres graves violations des droits humains, des opérations de type paramilitaire des agents de l'ICE, qui touchent principalement les personnes migrantes fuyant les conflits et en quête de protection. Nous publions ici, donc c'est Amnesty Belgique, la déclaration d'Amy Fisher, qui est la directrice des programmes droits des réfugiés et des migrants à Amnesty International USA, donc dont tu parlais Didier tout de suite avant. Là, elle dit, la fusillade meurtrière perpétrée aujourd'hui par les agents de la police des frontières américaines dans les rues de Minneapolis est le dernier rappel tragique que l'ICE et la police des frontières ne rendent pas nos communautés plus sûres. Au contraire, ils agissent en toute impunité, recourant à la force meurtrière en plein jour, terrorisant les quartiers et arrachant de jeunes enfants à leurs familles. Ce meurtre n'est pas un accident isolé. Il s'inscrit dans un schéma plus large dans lequel l'ICE, avec ses opérations de type paramilitaire, a été autorisé à mener des pratiques violentes et abusives en matière d'application de la loi et de détention, sans véritable contrôle ni obligation de rendre des comptes. Des opérations meurtrières dans les rues, à la torture, à la négligence et aux autres abus documentés dans les centres de détention pour immigrants, l'ICE a violé à plusieurs reprises les droits humains sans en subir pratiquement aucune conséquence. En fait, la Chambre des représentants a voté jeudi, donc c'était la semaine dernière, une augmentation de son financement de plusieurs milliards de dollars. Amnesty International appelle le Congrès à rejeter tout financement supplémentaire pour l'ICE et à prendre immédiatement des mesures pour tenir l'ICE responsable des décès et autres violations des droits humains qu'elle a causées et pour mettre fin à ces pratiques répressives meurtrières. Plus aucune vie ne doit être perdue, plus aucun centime ne doit être dépensé pour permettre cette horreur. Voilà, donc là, c'est le texte d'Amnesty États-Unis.
Juste une petite info pour compléter ce que tu viens de dire, Edith, c'est que j'ai entendu hier effectivement que en fait le Parti démocrate, du moins une grande partie du Parti démocrate, allait essayer de mobiliser le plus d'élus possible pour suspendre les crédits attribués à ICE, effectivement. Alors ils vont rentrer frontalement contre l'administration Trump. L'administration Trump n'a pas tous les pouvoirs.
Le Congrès
peut bloquer. Bloquer le financement de cette milice, parce qu'il s'agit bien d'une milice et pas du tout d'une police.
Voilà, mais si on suit les dernières informations, c'est que les membres de l'ICE sont en train de partir un peu de Minneapolis. Donc on va dire que même ces deux Américains, donc René Gould et Alex Pretty, les gens qui lui ont tiré dessus vont peut-être se défiler et il n'y aura pas de jugement. Et ça, vraiment aussi terrible, quoi.
Tout à fait. On passe la deuxième pause musicale, on se retrouve juste après.
Je sais que tu flippes l'ami. Tout seul à demander quelle connerie t'as pu faire pour en arriver là. Ton proprio te vire, ta femme se fait la malle, tes enfants la honte et tes copains ricanent. Tout le monde te fait croire que t'es un bon à rien, que t'es pas un gagneur, que t'es pas un battant. t'as du mal à penser, tu vas à la dérive. Alors tu penses au gaz, mais le gaz est coupé. Ta dignité, l'ami, tu crois qu'elle est bafouée, car ta vie, tu l'as vouée à de fausses valeurs. La morale du travail, la productivité, l'État et les patrons, leurs mensonges et leurs lois. Tu n'es que la victime d'un complot bien monté, celui de l'exclusion, parfaitement planifié pour faire marcher le monde. Hier on t'exploitait, aujourd'hui on te jette. Ça s'appelle le progrès. De cet apocalypse, on est seulement coupable d'avoir été aveugle. Nos brillants décideurs, que vont-ils faire de nous? Partager les richesses, faut pas rêver la vie. Collons-nous une étoile pour mieux nous reconnaître. Combattons l'exclusion et la pensée unique. Creusons-nous les méninges, caressons l'utopie. Réinventons le monde, réinventons la vie.
De retour sur l'antenne de Principe Actif, donc c'était un deuxième morceau de François Béranger, parce que du coup j'ai réécouté plein de François Béranger, voilà, exactement, et qui s'appelait « Aux exclus », chez là, là aussi, si vous avez écouté les paroles, c'est tout à fait parlant, voilà. Je voulais vous parler...
À toi, Didier.
Je voulais vous parler déjà à la dernière émission, mais on a manqué de temps.
C'est pas la peine de le dire.
Une heure, ça passe vite. Voilà. D'un dossier qui m'a beaucoup plu, qui est paru au mois de décembre sur le site d'Amnesty International, du Secrétariat International, et qui parle de l'action que font différentes personnes, dont des hommes, dans des pays d'Afrique de l'Ouest, et qui luttent pour les droits des femmes. Alors voilà, ça commence comme ça. Amnesty International travaille en étroite collaboration avec les communautés et les organisations partenaires pour lutter contre la violence à l'égard des femmes et des filles au Burkina Faso, au Sénégal et en Sierra Leone. Dans ces pays d'Afrique de l'Ouest, elles subissent différentes formes de violences basées sur le genre, notamment des mariages précoces et forcés et les mutilations génitales féminines, dites MGF. Mais aussi des violences physiques, psychologiques et économiques, les exposant à de nombreux types de vulnérabilités et de multiples violations de leurs droits humains. Donc Amnesty propose dans ce dossier de rencontrer 5 militants qui prennent la parole, travaillent à sensibiliser les communautés, luttent contre les violences basées sur le genre et soutiennent les survivantes. Alors je ne vais pas vous lire les 5, et surtout qu'il y a 2 hommes et 3 femmes, donc comme moi j'ai une voix d'homme, je vais quand même vous lire le témoignage d'un de ces hommes. Donc il s'appelle Médard Ouédraogo, il a 50 ans. Il est cultivateur et membre d'un comité d'alerte communautaire mis en place par Amnesty International et ses partenaires dans le village de Rutenga, dans la province de Passoré, au Burkina Faso, pour lutter contre les violences basées sur le genre. Il est également membre de l'Association pour la promotion de la femme et de l'enfant, dite APFE. Alors voilà ce qu'il dit. « Je me suis engagé contre les violences basées sur le genre depuis mes premiers échanges avec l'APFE il y a 5 ans. J'ai été touché par les sujets abordés et c'était ce que nous vivions. J'ai donc rejoint le comité d'alerte de Rutenga. Depuis qu'on a été sensibilisé au mariage précoce et forcé, il y a un grand changement. Mais la sensibilisation doit aussi toucher les villages environnants. Une femme pratiquait, c'est toujours lui qui parle, une femme pratiquait les mutilations génitales féminines dans notre village. Nous, les membres du comité d'alerte, nous sommes allés chez elle, après avoir informé son mari et ses enfants de notre intention de discuter avec elle. Elle avait déjà fait de la prison et craignait qu'on l'arrête à nouveau. Nous avons adopté une approche humble et respectueuse. Nous lui avons expliqué les conséquences néfastes des mutilations génitales féminines. Elle a été touchée par notre approche et s'est engagée à cesser son activité. Elle n'a plus pratiqué de mutilation génitale jusqu'à son décès cette année. Donc c'était l'année dernière, en 2025. Dans les cas de mariage précoce et forcé, dès que nous recevons l'information, nous agissons, nous nous rendons dans la famille du prétendant ou du marié et leur expliquant qu'une fille qui n'a pas encore 18 ans ne doit pas se marier. Souvent, les gens comprennent et acceptent. Lorsque la fille est déjà chez eux, ils nous disent qu'ils vont la ramener chez ses parents. Mais nous insistons pour les raccompagner nous-mêmes chez elle. Si l'homme refuse de laisser la jeune fille retourner dans sa famille, nous le dénonçons à la police ou aux services sociaux. Depuis qu'on a été sensibilisé au mariage précoce et forcé, il y a un grand changement. On ne donne plus les filles en mariage contre leur volonté. Mais la sensibilisation doit aussi toucher les villages environnants. Si Rutenga a abandonné la pratique des mariages précoces et forcés, ce n'est pas le cas ailleurs. Ce sont des sujets qui me touchent, dit-il. On montre l'exemple, on en est vraiment fier. Et moi, je trouve que quand on entend effectivement un tas de témoignages dont malheureusement on vous parle dans ces émissions, on n'a pas le choix, sur la misère du monde, lire des propos comme ça, ça fait effectivement du bien. Ça, c'est clair. Alors juste une petite précision par rapport à ce que dit cet homme dans ce témoignage. Effectivement, le Burkina Faso a adopté une loi l'année dernière, ça fait partie des bonnes nouvelles sur la page d'Amnesty, a adopté une loi l'année dernière qui interdit, aussi bien pour les hommes que pour les filles, le mariage avant 18 ans. Maintenant, effectivement, il faut faire respecter la loi. Ce n'est pas le plus simple.
Voilà, mais c'est bien que ça parte des gens.
Voilà. Alors, il y a un autre témoignage, mais je n'aurai pas le temps. Ce sera pour une prochaine fois, parce que j'aime beaucoup cet article. Vraiment, ça m'a beaucoup plu. Un autre témoignage d'un autre homme, effectivement, qui, lui, en Afrique, qui, lui aussi, lutte pour les droits des femmes.
Très bien.
Voilà.
Donc on pourrait faire une petite intervention cinéphile.
Oui. Hein,
Dominique, désolé, j'ai pris ta place.
Soyons cinéphiles.
Donc un film qui va sortir le 28.
C'est demain.
28 janvier, soutenu
peut-être pas à Evreux demain.
Par Amnesty, non, il n'y est pas. Promis le ciel, il est d'Erij Sehiri. Alors on oublie souvent que la grande majorité des migrants africains, environ 80% se déplacent à l'intérieur du continent Afrique, rappelle la cinéaste Erij Sehiri. Si la plupart des récits migratoires portés à l'écran racontent un départ vers l'Europe, Promis le ciel, troisième long métrage de cette réalisatrice tunisienne, ose le contre-pied. C'est un film choral qui suit le parcours de trois femmes subsahariennes installées à Tunis. Marie, ancienne journaliste devenue pasteur d'une église évangélique, dissimule ses blessures intimes derrière une verve charismatique. Elle héberge Nané, ivoirienne qui traficote pour envoyer de l'argent à sa fille restée au pays. Et Jolie, étudiante en ingénierie, seule du trio à posséder des papiers en règle. L'arrivée d'une fillette rescapée d'un naufrage bouleverse le fragile équilibre de ce génissé et conforte chacune à son destin. L'histoire se déroule sur fond de montée du racisme et d'une chasse aux migrants orchestrée par le pouvoir tunisien, insultes, harcèlement dans la rue, rafles. Même Jolie, pourtant en règle, se trouve embarquée au poste et sommée de signer des formulaires en arabe qu'elle ne comprend pas. Quant aux voisins tunisiens, le climat sécuritaire érode toute velléité de solidarité. Mais malgré la dureté de leur vie en cul-de-sac, les personnages ne se réduisent jamais au statut de victime. Au contraire, ils incarnent une vitalité lumineuse comme Nané, une ambition comme Jolie, ou une capacité à se remettre en question comme Marie. Alors, promis le ciel, ça sort demain, soutenu par Amnesty, voilà. On espère le voir.
On espère le voir effectivement à Évreux, tout à fait. Eh bien, il nous reste quelques minutes. Et on salue effectivement Manu qui vient d'arriver, qui va prendre la suite de la programmation de ce soir sur l'antenne de Principe Actif. Et donc, il nous reste quelques minutes pour rappeler... pour rappeler effectivement de signer cette pétition, c'est fondamental.
Et de signer les autres, aller sur le site régulièrement.
Tout à fait. Il y a un tas de pétitions à signer, dont encore les pétitions, on parlait tout à l'heure de la campagne Changer leur histoire là, de 2025.
Elles sont jusqu'à la fin du mois.
Elles sont jusqu'à la fin du mois, et certaines même un peu plus que ça. Mais enfin, vous pouvez continuer à les signer. Mais surtout, parce que je crois qu'elle va se terminer bientôt, cette pétition de pression par rapport aux autorités françaises pour qu'ils interviennent contre l'impunité des mollahs en Iran. C'était effectivement tout à fait intolérable que ces gens qui sont responsables de milliers de morts civiles chez eux continuent à dormir tranquillement dans leur lit le soir. Je ne sais pas comment leur conscience leur permet de le faire, mais en tout cas, au niveau de la justice, pour l'instant, ils ne sont pas inquiétés.
Et voilà. Puis, pour les changer leur histoire, eh ben, on vous tiendra au courant, à fur et à mesure, dans l'année, des améliorations, ou pas, pour toutes ces personnes pour qui on vous demande de signer.
On a déjà eu une amélioration, puisqu'on a eu l'avocate,
tunisienne,
son nom m'échappe tout de suite, mais bon, qui effectivement a été, on a fait une première pétition pour demander sa libération en Tunisie, et en fait elle a été libérée juste au moment où
Sonia
on a lancé la
Damani.
Campagne. Sonia Damani, voilà, merci. Elle a été libérée au moment où on a lancé
la
campagne.
Mais encore, elle a aussi toutes les accusations
mais
qui
restent. Elle a encore des inculpations, voilà. Donc on demande maintenant la levée des inculpations qui la concernent.
On sera attentif à tout ça.
Donc voilà. On vous rappelle aussi
notre
prochaine radio, oui, tout à fait, je l'avais noté tout à l'heure, tiens, j'ai perdu la feuille.
Moi, je vous dis que c'est dans 15 jours, vous ne fatiguez pas, mais comme il y a un changement de mois...
C'est le mardi 10 février, voilà, 10 février à 19h en direct sur l'antenne de Principe Actif. Et puis, on a plein de podcasts, encore une fois, sur le site de la radio, principeactif.net, rubrique Amnesty International, n'hésitez pas à les réécouter. Voilà, et aussi notre adresse mail, parce que si vous avez un peu de temps à consacrer pour la promotion et la défense des droits humains, on serait tout à fait...
Rejoignez-nous.
On serait tout à fait, intéressé et très content de faire un petit bout de chemin avec vous. Donc notre adresse mail, c'est evreux@amnestyfrance, tout attaché avec Amnesty avec un Y, amnestyfrance.fr, evreux@amnestyfrance.fr. Vous nous envoyez vos coordonnées, votre numéro de téléphone. On vous rappelle, il n'y a pas de problème, n'hésitez pas. Et encore une fois, signez les pétitions, faites-les connaître autour de vous. Et c'est un premier geste à faire pour la défense des droits humains. Voilà, on se retrouve le 10 et on laisse la place au laboratoire.
Bonsoir.
Partout dans le monde, Amnesty International se bat pour mettre en lumière les violations des droits humains. Sortez de l'oubli les personnes dont les droits sont bafoués.
Article 1er. Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droit. Ils sont doués de raison et de conscience et doivent agir les uns envers les autres dans un esprit de fraternité.
Avec vous ce soir, Amnesty International Évreux.
Pour dandiner, pour voir le monde léger, ça va. Je préfère la canette à la grenade. Je découpille dans ma tête, c'est la guerre. Je préfère la canette à la grenade. Je vis sur ma planète, c'est une blague.